Scène ouverte.
Une émission théâtrale.
Sur Radio Campus Paris.
Oui, je vais vous en dire plus, mais je vais pas tout vous dire.
Ah, non. Si la plus singulière saveur du secret, c'est d'être confié, voici ce que j'ai à vous dire.
Mais en vrai, la jeunesse a démarré avec une bouteille de vin, faut pas mentir quand même.
Je ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise.
Je me dis, si moi je le fais pas, personne va le faire en fait.
On est tour à tour soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé.
C'est de la pure intensité.
On dirait une femme.
Et la tête, où est-elle la tête? Madame, 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 bamba.
Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans Scène ouverte. C'est l'avant-dernière émission de cette saison et nous vous avons concocté un programme aux petits oignons. Vous êtes bien en direct sur le 93.9 FM et pour l'écoute en replay de cette émission et de toutes les autres, ça se passe sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast rubrique Scène ouverte. Vous l'attendez avec impatience, place au programme.
Scène ouverte.
Ce soir, Scène ouverte consacre son émission au destin. Les destins heureux, les destins brisés, ceux qui se conquièrent, ceux qui se subissent. C'est Jennifer qui sera à la manœuvre aujourd'hui et elle tendra son micro à des interprètes qui donnent vie sur scène à des personnages qui dansent leur vie, qui crient leur vie, qui existent à plein, malgré la violence et les coups, malgré la cruauté et les désillusions, malgré tout. Dans un premier temps, Jennifer recevra Anissa Feriel et Frédéric Lapinsonnière qui ont joué dans l'interprétation par Pauline Bell du roman de Balzac « Illusion perdue » le mois dernier au Théâtre public de Montreuil. Ensuite, elle discutera avec l'autrice et interprète Andrea Bescon de son seul en scène « Les chatouilles ou la danse de la colère » qui se donnait sur la scène du Théâtre de l'Atelier. Le tout saupoudré de deux pauses musicales et d'un rendez-vous au théâtre et le tour sera joué. Jennifer, la parole est à toi.
Sur une petite scène à Angoulême, un jeune homme se présente à nous. Il va nous déclamer un poème. Une femme qu'il aime lui dit qu'il a du talent et le convainc de tenter sa chance à Paris. C'est le cœur plein d'espoir qu'il arrive à la capitale et découvre le milieu de l'art, de l'édition et du journalisme. Il est prêt à tout pour vendre ses sonnets, mais ne se doutait pas de ce que ce tout signifiait. Je suis allée voir au Théâtre public de Montreuil l'adaptation par Pauline Bell d'Illusion perdue de Balzac. J'étais à la fois extrêmement curieuse de voir un roman de la comédie humaine sur scène et en même temps assez craintive. Est-ce que ce sera trop dense, trop verbeux, trop long? J'aurais honnêtement difficilement imaginé une meilleure adaptation. Le résultat est très lisible. C'est à la fois riche et simple. On se fait aspirer dans l'intrigue, dans le tourbillon de la corruption. On se laisse outrer par les événements, débecter par les personnages. On soupire à chaque mauvaise décision de Lucien. Bref, on est dedans. Il y a une grande sobriété dans les costumes et la scénographie, ce qui laisse toute la place au texte et à l'interprétation des comédiens et des comédiennes. La disposition en quadrifrontale donne l'impression d'être dans l'histoire, avec eux. Ces derniers livrent une réelle performance. Tous sont sur scène ou avec le public pendant une grande partie du spectacle, passant souvent d'un personnage à l'autre à la vue de tous. Ils sont cinq à se partager les rôles. Chacun est parfaitement caractérisé, ils sont charismatiques, justes, ancrés. La mise en scène est sobre, dynamique, efficace. Il ne faut rien d'autre que le talent des acteurs et la qualité de l'écriture pour entrer dans l'histoire, faire naître l'environnement. Cette adaptation rend hommage à la littérature française, n'effaçant en rien la beauté de la langue présente dans ce roman rempli de personnages qui aiment s'écouter parler, sans jamais perdre l'enjeu, sans jamais nous endormir. La tension reste du début à la fin. On assiste, investi et dépité, à la chute du jeune poète, à sa désillusion. Et on se dit tout du long que ce texte est encore très actuel, c'en est troublant. C'est une pièce très bien travaillée et généreuse. J'ai passé un excellent moment et je remercie Anissa Feriel et Frédéric Lapinsonnière d'avoir accepté notre invitation.
Thank you.
Rebonsoir Anissa, rebonsoir Frédéric, et merci d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Première question, en faisant mes recherches très approfondies sur Internet, j'ai eu l'impression que le spectacle a déjà été créé il y a quelques années, si je ne me trompe pas, et que vous ne faisiez pas partie de la distribution. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment vous êtes arrivé sur ce projet en tant que comédien ?
Alors oui, en effet, ce spectacle a été créé en janvier 2020 avec une première distribution. Et nous, on est arrivé avec cette nouvelle distribution en septembre 2022. Donc il a existé pendant 2 saisons avec cette première distribution. Et nous, alors il y a, oui, on est 5 comédiens, comédiennes qui avons rencontré Pauline dans différents contextes. Et ensuite, elle nous a contactés pour recréer cette nouvelle équipe.
De même pour toi, Frédéric.
Ce que je pourrais rajouter, c'est que aussi, c'est une équipe où il y avait certaines personnes qui se connaissaient, d'autres pas forcément, mais on avait tous un point commun, effectivement, c'est qu'on avait plus ou moins, de près ou de loin, travaillé avec Pauline.
D'accord. Comment est-ce que vous avez travaillé ces personnages ? Du coup, le texte existait déjà, j'imagine. Est-ce que vous êtes directement allé sur le texte existant ? Est-ce que vous les avez travaillés en dehors et ensuite vous êtes venu sur le texte ?
Alors, on a déjà tous les deux vu le spectacle avec la première distribution.
Déjà.
Sans savoir à ce moment-là qu'on allait potentiellement le reprendre, ce qui a été pour nous... Je pense à peu près la même chose que vous avez pu dire au début de l'intro. C'était aussi une claque visuelle et sensitive. Et du coup, nous, on est arrivés, on a commencé à répéter. Pardon, j'ai oublié la question.
Comment est-ce que vous avez travaillé ce texte et abordé les personnages ? Est-ce que vous avez vraiment... Comment vous avez travaillé ce spectacle ? Est-ce que vous étiez vraiment centré sur le texte ou est-ce que vous avez fait un... Je vous pose la question parce que vous avez... toi, Frédéric, tu as plusieurs personnages. Donc, je me pose toujours la question, voilà, comment il fait pour s'ancrer dans chaque personnage, changer d'un personnage à l'autre. En plus, comme je l'ai mentionné, parfois dans le public, donc sans pause, oui. Je sais pas, en coulisses pour reprendre ses esprits. Et toi, Anissa, tu joues le personnage principal. Je crois que tu es sur scène non-stop.
Elle ne sort jamais.
Une ou deux fois.
Deux fois, je n'ai même pas... J'ai oublié ces moments, ils étaient inutiles. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé la caractérisation de ces personnages ? Ma question est du coup très longue.
Non, bien sûr. Juste pour un état des lieux, on a repris le spectacle en 17 jours top chrono. Donc, ça a été on savait qu'on le reprenait 6 mois avant, donc on l'a appris. On a relu le roman, ou lu le roman pour certaines et certains. Et on a essayé de s'imprégner aussi, on avait une captation de la distribution précédente et Pauline nous avait laissé beaucoup de notes de son travail de recherche qu'elle avait fait avec la première équipe, ce qui nous a permis plein de références ce qui nous a permis de créer, de s'imaginer un monde. Après, une fois arrivé sur le plateau, pour ma part en tout cas, le monde était très différent. Le moment où on est seul, où on s'imagine beaucoup de choses, et le moment où il faut rentrer dans la réalité et créer quelque chose qui nous appartienne vraiment, ça prend un petit temps. Et donc du coup, ça a été très rapide. Il a fallu créer quand même très vite, et il a fallu que ça prenne forme assez vite. Donc c'était étonnant comme travail. Il y a un truc avec Pauline où les choses quand même, elles nous guident d'une telle manière que les choses prennent vie qu'on s'en rende compte. Ça, d'un coup, en fait, ça apparaît sans forcer, là où, effectivement, je parle beaucoup de cette notion de temps, parce que 17 jours, c'est très peu. Mmh. Et il y a un truc où elle nous a... elle a lissé l'ensemble, elle nous a fait confiance aussi à créer des choses un peu différentes de l'équipe d'avant. C'était vraiment super, quoi. Voilà à peu près comment moi j'ai vécu le truc.
Et après, sur la question du texte, pour compléter, le texte est très précis et ciselé, donc il y a vraiment un apprentissage d'une extrême pression, c'était au cordeau. Et c'est ce qui nous permet ensuite de trouver une liberté dans le jeu, entre nous, etc. Donc il y a ce... Si la... En fait, dans la création, dans le travail d'adaptation, il y a tout un temps d'improvisation aussi, de va-et-vient entre le plateau et l'écriture que fait Pauline. Ça, nous, on ne l'a pas vécu, mais on a hérité du texte qui a été le fruit de cette collaboration entre... le travail d'adaptation de Pauline et puis les improvisations et les propositions, etc., des interprètes qu'elle avait réunis pour cette première équipe.
Donc, dans un premier temps, elle avait fait un travail au plateau pour interpréter le roman. C'est pas elle qui était venue déjà avec...
Si, il y a une première adaptation. Ah, il me semble qu'elle travaille elle-même dans un premier temps de manière tout à fait solitaire à la bibliothèque et à l'écrit. Et ensuite, à partir de là, il y a des improvisations, il y a réécriture. C'est une très longue maïotique. En fait, c'est un long processus. Okay. Je crois qu'initialement, le spectacle... Il y a eu 3 mois de répétition pour créer ce spectacle, il me semble. C'est ça, ouais, voilà. Et nous, ensuite, on est arrivés. Alors, on a eu 17 jours, mais la mise en scène existait déjà, le texte existait déjà. Et on avait... pour mission d'arriver avec le texte su, les déplacements su, mais pour ensuite trouver notre propre liberté à l'intérieur de ces parcours très précis.
D'accord. Alors justement, je le mentionnais tout à l'heure, vous êtes sur scène, toi Anissa, parce que tu es le personnage principal, donc c'est à toi qu'il arrive tout, et les autres acteurs sont sur scène et parfois font leur changement de costume à vue. Et comment est-ce que vous... Enfin, à vue, on voit rien, ils mettent des gilets, ils les enlèvent, il n'y a rien de foufou. Mais par contre, je me suis dit, pour passer d'un personnage à l'autre, comment ça se passe? Comment vous le vivez?
Ah, du coup, la question est pour moi.
Plutôt, oui.
Sur T4. Disons qu'il ne faut pas réfléchir. Je crois que vraiment, il faut se dire... et que là, en fait, c'est quoi l'enjeu? Où on en est dans la scène? Et surtout, il faut regarder ce qui s'est passé avant. En fait, si on n'est pas attentif au spectacle, de ce que font nos camarades sur scène, c'est un peu compliqué. Et... Tout le but du spectacle, c'est quand même de faire avancer Lucien vers le précipice. Et chaque... j'ai dévoilé la fin, c'est vrai. chaque personnage, en fait, pousse la pierre un peu plus loin. Donc, ils ont des enjeux qui sont différents. Donc, une manière d'agir qui est différente. Donc, en ça, déjà, juste... Ça, c'est juste l'intellect, dans un premier temps. Et après, les petits changements, effectivement, de costume, de mise, de veste, pour ma part, où je mets une veste, une écharpe ou une paire de lunettes, moi, ça m'aide. Je me dis, c'est une tenue du corps qui est différente. J'arrive, je suis dans une position différente, dans un angle différent de la scène. Et moi, ça m'aide comme ça. Enfin, je me le crée et je me pose moins de questions. Au début, je me posais vraiment beaucoup de questions. J'étais peut-être plus... corporellement compliqué. À force, justement, on l'a polissé, on l'a simplifié, et en fait, ça coule de source. Ça vient direct, en fait. Mais je crois que c'est en faisant qu'on apprend.
Ok. Est-ce que vous savez pourquoi ce choix de mise en scène a été fait, et qu'est-ce qu'il apporte, selon vous, de rester comme ça dans le public? Est-ce qu'il y a quand même d'autres moments où vous sortez de scène pour faire des changements? Est-ce que vous...
dans mon interprétation à moi, c'est qu'on est tous spectateurs actifs. C'est-à-dire, le public est actif pour voir, en fait, cette histoire se dérouler sous les yeux. Et est-ce que quelqu'un va agir pour cet homme dont on voit concrètement la future chute? Il s'avère que ça n'est pas encore arrivé. Personne ne l'a sauvé jusqu'à présent. Donc, il y a une forme de complicité, au fond. De ce drame qui se joue sous nos yeux.
Ok. Je crois que ça répond à la question que j'allais poser après, où de manière générale, c'est un spectacle où il y a une grande proximité avec le public. Bon, je ne veux pas trop en dévoiler, mais il y a des... Bon, je dévoile quand même, j'échoue. Où vous parlez directement au public, où on est quand même très pris à partie. Moi, j'étais mise d'une certaine manière dans la salle. Bon, pour le coup, je vais essayer de ne pas trop dévoiler, qui faisait que vraiment on était avec vous. Est-ce que justement c'est pour ce côté, en fait, vous faites partie du problème pour vous investir encore plus dans l'histoire?
Oui, c'est le côté arène, ring aussi. on est examiné sous toutes ses coutures dans le monde, dans la jungle parisienne, quoi. C'est vraiment ça qui est dans le monde social impitoyable de Paris qui va broyer Lucien. Donc c'est aussi montrer ça.
Quels ont été les défis, s'il y en a eu, et peut-être les avantages justement de jouer en quadrifrontal et d'être vu sous tous les angles pendant tout le spectacle?
Ouais, je trouve que ça exige une présence et un centrage de tous les instants, quoi. C'est vraiment très exigeant, mais à la fois très joyeux et galvanisant, en fait. Ouais, c'est très, je trouve ça assez merveilleux comme expérience. Parce que, enfin, de toute façon, jouer, il faut être là au présent tout le temps, être toute sensibilité et toute ouverture et disponibilité. Donc ça ne fait qu'inviter à faire ça encore davantage et voilà, en 3D de partout. C'est voilà.
Moi, voir cette pièce m'a énormément donné envie de jouer du Balzac. Je me suis dit, mais il écrit vraiment super bien. Quels étaient peut-être les aspects les plus difficiles et à l'inverse, les aspects les plus jouissifs dans le fait de jouer ce texte?
Alors, c'est une langue qui est très étrange, moi, je trouve, parce qu'elle est à la fois excessivement proche de nous, mais avec des mots qu'on n'utilise pas, mais dont on devine quand même assez facilement le sens. Donc du coup, il y a une espèce de perpétuelle dualité de je sais ce que je dis, en même temps, c'est un peu compliqué, j'aurais pas fait ça comme ça, enfin, je l'aurais pas dit comme ça dans cette tournure-là. Donc c'est vrai que c'est une langue hyper complexe, et en même temps, très proche, très actuelle, très maintenant, et moi, je trouve que c'est hyper beau comme façon de parler.
Oui.
Ça m'étonne beaucoup à chaque fois que je le fais.
Pour ajouter, t'avais...
Oui, vas-y.
C'est pour moi l'enjeu, la difficulté et ce qu'il faut travailler en permanence, c'est le fait d'être toujours actif, active avec cette langue-là qui nous décale du quotidien et d'être toujours bien au présent et dans la pensée, dans la continuité de la pensée de cette langue qui la sous-tend, quoi. Pour arriver vers nos partenaires et arriver à les atteindre.
Et puis Balzac, c'est vraiment des phrases à rallonge. Enfin, ça peut ne pas s'arrêter. Moi, j'ai des phrases, en fait, ça fait un paragraphe entier, donc, c'est-à-dire 10 lignes. Donc il faut effectivement, comme dit Anissa, 1, tenir le sens, 2, être très concret dans ce qu'on dit, et 3, d'être là avec les gens, soi-même. Ce qui est très difficile, je crois, dans ce spectacle, c'est de ne duper personne. D'essayer de ne duper personne.
Vous pouvez nous donner des petits tips sur votre préparation pour rester au présent pendant 2h30 de spectacle? Je me dis, comment ils peuvent autant... Ça fait 2 heures qu'ils parlent sans... 2h30 qu'ils parlent sans s'arrêter une seconde. Franchement, en plus, en pensant que vous l'avez fait en 17 jours, c'est vraiment très, très impressionnant. Est-ce que vous avez des petits tuyaux pour les jeunes comédiens qui nous écouteraient, pour vraiment être au présent, être précis dans la langue, ne pas se laisser emporter par... En plus, Anissa, toi, tu récites des poèmes, enfin, pas mal de poèmes, vu que c'est ton travail, et aussi des articles de journaux. Comment faire pour ne pas se laisser emporter par le lyrisme de tout ça?
Ouais, bah c'est justement ça, ne pas se laisser emporter. Et donc travailler, être pas à pas, à vraiment avancer pied à pied, être très exigeant là-dessus, quoi. C'est vraiment, tout doit aller très progressivement. Et ça, c'est au niveau de la langue, mais c'est au niveau des scènes, des situations, des relations. Tout doit vraiment, on doit en fait, prendre par la main le public pour avancer ensemble. Et du coup, le travail de l'interprète, c'est aussi, enfin, en tout cas, ouais, c'est vraiment d'avoir cette exigence du présent. De chaque mot, de chaque segment de pensée, etc.
Après, c'est vrai qu'on a aussi un petit défi entre nous, c'est-à-dire que le but, c'est de raconter cette histoire ensemble, de s'étonner aussi de cette histoire, de comment elle peut tourner différemment. On est une équipe qui s'entend très bien, vraiment, où on s'amuse. Et je crois qu'être présent, c'est aussi s'amuser énormément avec cette histoire qui est... Enfin, plus l'histoire est horrible, plus il faut quand même essayer de trouver un peu de lumière, quoi, dans tout ça. C'est très important d'avoir une bonne équipe.
Est-ce que c'est passé aussi par le travail du corps? Parce qu'il y a quand même une très belle présence corporelle et des moments assez physiques dans le spectacle. Comment est-ce que vous avez travaillé cet aspect-là? pareil, en 17 jours, Pauline vous a dit faites ça et c'est venu à vous.
Non, mais on commençait chaque journée par un petit échauffement, par un peu de yoga et puis un exercice sur de la musique. Donc oui, le corps est très important en fait. Oui, oui, c'est effectivement. Et on a chacun, chacune nos petits rituels, nos petits échauffements corporels, vocaux, etc. pour se préparer et se mettre en condition et se rendre disponible en fait à ce travail-là pendant 2h30.
Comme à chaque représentation à laquelle j'assiste, j'avais le droit au scolaire dans votre salle ce soir-là. C'est mon lot. J'imagine que pour cette pièce, vous devez avoir beaucoup de scolaires. Enfin, en avez-vous beaucoup? Et est-ce que vous avez eu des retours sur la réception du spectacle par les plus jeunes?
Oui, c'est très varié. mais dans un sens positif, moi, je trouve ça bien... Pas que les 10 jeunes voient absolument des classiques, mais c'est juste... pour moi, par exemple, ce spectacle, c'est pas une question de classique. C'est un peu ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'intemporel et que je pense que ça peut parler toujours de c'est quoi la réussite maintenant. Je sais qu'avec Anissa, on fait beaucoup d'ateliers. On a fait, on en fera encore, beaucoup d'ateliers avec des collégiens, des lycéens. Et c'est des thèmes, par exemple, dont on parle à chaque fois et on fait des impros avec eux. Et il y a des trucs... qui ressortent, qui sont d'une invention en fait fabuleuse. On leur demande, enfin moi je peux leur demander de me raconter une histoire d'un Lucien moderne, qu'est-ce que ce serait? Et on est parti sur des histoires de rocambolesques, il est éleveur de moutons et puis il a un TikTok, son mouton devient hyper célèbre. Et donc du coup, comme le mouton est trop célèbre, du coup il le tue parce qu'il veut revenir au devant de la scène. Et il est poursuivi par des FBI. Enfin, les gens sont incroyables. Enfin,
c'est fou.
Les ados sont incroyables. Donc, je trouve ça important de les avoir dans le public. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Ils ont le droit de ne pas aimer. C'est un spectacle, comme tout spectacle, on a le droit de ne pas aimer et de s'embêter.
Bien sûr. Ils ont fait ces impros après avoir vu la pièce?
Non, avant.
Ou... avant.
Okay. Non, on les voit avant, généralement.
Ok. Et après la pièce, il y a eu des retours. Vous parlez avec eux parfois après avoir vu?
Que disent-ils? Non, mais ils peuvent. Ouais, souvent, j'en ai rencontré des adolescents et adolescentes assez touchés par ce parcours-là et en empathie avec Lucien. Parce que les désirs de gloire, d'amour et d'argent, c'est.
Voilà, c'est éternel.
Ouais. Puis c'est. Ils les ont en partage, quoi. Donc oui, c'est une histoire qui apparemment les emporte, j'ai l'impression, ouais. Même si tout n'est pas saisi, tout n'est pas... Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de cette traversée humaine qui, pour le coup, les touche.
Moi aussi, j'ai envie du coup de venir voir cette traversée humaine. Est-ce qu'il y a d'autres dates?
Tout à fait. Il me semble, si mes recherches, encore une fois très approfondies, sont correctes, que vous reprenez le spectacle en septembre 2024 au Théâtre de l'Atelier. Oui, mes recherches.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues où on pourrait venir... voir ce spectacle?
Eh bien, on joue en Suisse aussi en octobre.
Ah, mais pour nos amis suisses.
Voilà, et plus proche de nous, on joue en juillet. Juillet.
Donc le mois prochain, juillet 2024.
Ah oui, oui, oh, la vache. Déjà. Oui, déjà. À Lurcy. Lurcy. Je suis désolé, je ne connais pas cette ville.
Vous ferez des recherches approfondies chez vous.
Et ce sera en extérieur, donc ce sera un spectacle totalement différent. Ça va être super.
Super. Du coup, j'aurais dit les dates dont je suis sûre, en septembre 2024 au Théâtre de l'Atelier à Paris. Merci beaucoup Anissa, merci beaucoup Frédéric
pour cette interview. Merci Jennifer pour cette interview. Le temps pour nous de faire une petite pause musicale et ça sera l'heure de ton deuxième entretien en bonne compagnie.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows.
leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène ouverte. Vous venez d'entendre Everybody Knows de Leonard Cohen. Il est désormais l'heure de retrouver Andrea Bescon pour une interview menée par Jennifer, toujours à propos de son seul en scène Les Chatouilles. Avertissement au public de rigueur concernant cette interview, puisque le spectacle aborde les sujets de la pédocriminalité, du viol sur mineur et de l'inceste. Le trigger warning est posé. Jennifer, c'est à toi.
Scène ouverte.
Selon la Civise, 160 000 enfants par an sont victimes d'agressions sexuelles, soit un toutes les 3 minutes, soit 2 enfants au moins par classe, soit nécessairement des gens de votre entourage. 81% des agresseurs sont membres de la famille de la victime, une plainte est déposée dans seulement 19% des cas, et en tout, seulement 3% des agressions sexuelles et viols sur mineurs font l'objet d'une condamnation de l'agresseur. Je vous l'accorde, ce début de chronique est quelque peu plombant. C'était important pour moi de rappeler ces chiffres édifiants avant de vous parler du seul en scène d'Andrea Bescon, Les Chatouilles ou La Danse de la Colère. Un spectacle qui retrace le parcours de vie d'une femme victime de viol dans son enfance par un ami de la famille. Un récit poignant qu'on espérerait être exceptionnel et qui est malheureusement une réalité d'une grande banalité. En réalité, d'une grande banalité. Le spectacle commence avec une scène des plus glaçantes. Une adorable petite fille, dans la plus grande innocence, a une conversation avec un adulte qui s'intéresse à elle, la complimente, la manipule, la viole. J'étais à la fin de cette scène prise aux tripes et pas certaine de pouvoir tenir jusqu'au bout. Pourtant, malgré cette violence et l'écœurement, je suis sortie de cette représentation ravivée, pleine de combativité. Il y a tout dans cette pièce. Il y a la danse de la colère, mais aussi celle de la souffrance, la danse de la fuite, de la peur, de la survie, du combat. Il y a les scènes qui vous font froid dans le dos, celles qui vous mettent hors de vous, celles qui vous font rire, celles qui donnent envie de se battre. Il y a les personnages abjects, les ambigus, les attendrissants, ceux que vous avez peur de devenir. Il y a l'agression, le traumatisme, la danse qui sauve, les amis qui réveillent, la police qui brusque, la décision de guérir. Il y a un combat pour la vie qui est belle, un combat contre les monstres si nombreux, une lutte contre le silence assourdissant, un élan puissant pour la vie, pour la joie. Tout cela interprété par une seule et même personne, Andrea Bescon, avec une grande précision, une grande justesse d'interprétation et beaucoup d'énergie. Vous aviez peut-être déjà entendu parler ou vu le film « Les Chatouilles », l'adaptation cinématographique de cette pièce, moi aussi, et je vous recommande vivement d'aller voir le spectacle qui offre une expérience très forte et différente du film. Il y avait une belle connivence dans le public et avec la comédienne, un partage propre au spectacle vivant qui m'a fait monter les larmes. En sortant, j'étais pleine d'espoir pour l'avenir, l'espoir de lever le tabou, de mieux protéger les enfants, mieux les aider à se reconstruire, libérer la parole. Merci pour les gens qui ont besoin de ce témoignage, les victimes, les accompagnants, les parents. J'ai eu le plaisir de pouvoir échanger avec Andrea Bescon ce matin et je vous laisse avec notre conversation.
Merci beaucoup, Andrea, d'avoir accepté cette invitation. Vous fêtez cette année les 10 ans de votre spectacle Les Chatouilles. Je vous propose de revenir un petit peu au début et de repartager avec nous comment ce spectacle est né, comment la forme seule en scène s'est imposée à vous pour raconter cette histoire.
Je traversais une période de ma vie où je me demandais encore pourquoi je n'allais pas bien. J'avais obtenu justice, c'est mon histoire que je raconte à travers le récit des chatouilles. Donc j'ai choisi un nom de personnage, Odette, puisqu'au début je ne disais pas que c'était mon histoire. Je me suis dit, écoute, t'es danseuse, t'es artiste de spectacle vivant, t'es rentrée dans le théâtre, peut-être qu'il est temps de mettre ça sur scène. J'étais quand même assez encouragée aussi par les personnes qui m'entouraient. Tout simplement, après avoir obtenu justice, même si évidemment c'était dérisoire comme toutes les condamnations de pédocriminels, mais j'attendais beaucoup de cette condamnation. Puis au final, j'ai ressenti une immense solitude après ça. Donc le mettre sur scène, c'était peut-être une façon de le sortir encore un petit peu de moi et que ça apporte éventuellement aux autres. Mais moi, à cette époque-là, en 2012, quand je l'ai écrit, je n'imaginais pas qu'on était autant à avoir vécu la pédocriminalité ou l'inceste. Tout simplement, c'était un besoin vital, viscéral, qui est devenu artistique. On l'a créé pour le Festival d'Avignon en 2014. J'ai commencé à avoir les premiers témoignages de personnes qui venaient voir le spectacle et qui me disaient « En fait, vous racontez mon histoire, j'ai vécu quasiment la même chose, j'ai les mêmes, je connais les mêmes conséquences psychotraumatiques. Merci d'avoir porté ça sur scène. » Et donc, au fur et à mesure des années, puis il y a eu MeToo, etc. Et puis, on sait aujourd'hui qu'on est des millions.
Justement, vous disiez, vous avez une formation de danseuse. Dans la présentation du spectacle, vous dites « Quand les mots ne suffisent plus, la danse est son moyen de survie ». Il y a beaucoup de danse dans le spectacle, comme l'indique le... Mais il y a aussi beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de textes et il y a beaucoup de jeux. Pourquoi, en l'occurrence, la danse n'a pas, entre guillemets, suffi ? Pourquoi vous avez voulu ajouter...
J'avais déjà créé une pièce autour de la pédocriminalité, une pièce totalement chorégraphique. J'étais rentrée dans le théâtre, j'avais enfin découvert ma voix, VOX, et donc je me suis dit qu'en effet, il n'était plus question aujourd'hui au stade où j'en étais de me contenter, entre guillemets, d'un vocabulaire juste corporel, et j'avais besoin que ça devienne un théâtre physique et qu'on pose concrètement les mots sur les mots, M-O-T-S sur M-A-U-X. Donc ça m'a paru tout à fait évident. Puis moi, j'avais envie, j'étais à ce stade de ma vie où tout simplement, j'enrichissais mon art vivant par le théâtre, la voix. Donc je ne me suis pas vraiment posé la question.
Moi, ce qui a ravivé mon envie de voir la pièce, c'est un interview que j'ai entendu de vous récemment, où vous disiez que vous aviez envie de la rejouer maintenant que vous étiez mieux dans votre peau, mieux dans votre tête. Je me demandais ce que ça changeait pour vous de jouer ce spectacle maintenant que vous allez mieux, dans la manière dont vous le vivez pendant les représentations et aussi peut-être dans ce que vous pensez donner aux gens quand vous le faites.
Ouais, ça s'est imposé à moi parce que quand j'ai arrêté de le jouer il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, je n'étais pas dans une très bonne période. En fait, à partir du moment de la création, pendant les 5 ans que je l'ai joué, ce spectacle un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, je suis allée à Tahiti, à San Francisco, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Je me suis confrontée à ce trauma qui m'est revenu vraiment en pleine face, plus le tsunami de témoignages aussi qui m'est tombé dessus, ce qui est le cas de toutes les personnes un peu médiatiques qui témoignent. On reçoit énormément, énormément, énormément de témoignages. Il faut savoir que les victimes sont totalement abandonnées en France. Donc forcément, nous, on constitue une espèce de béquille et c'est quand même super lourd à porter, notamment parce que aujourd'hui, les femmes et les hommes qui témoignent médiatiquement savent qu'on est si nombreux et puis s'attendent à recevoir les témoignages. Moi, je ne m'y attendais pas. J'étais vraiment au début, même si évidemment... Christine Angot et Eva Thomas avaient déjà parlé bien avant moi, mais ouais, j'étais pas prête à ça. Ça m'a beaucoup heurtée. J'étais aussi maman de deux enfants en bas âge à ce moment-là, donc je voulais aussi tout assurer, être une bonne maman, me lever le matin, aller chercher à l'école, faire mon spectacle le soir. Je jouais 6 fois par semaine au Petit Montparnasse. Enfin, ça a été, voilà, vous avez vu le spectacle, vous connaissez la physicalité et l'implication psychologique et émotionnelle. Donc, j'étais extrêmement fatiguée, éreintée, puis assez aussi désespérée que ça n'avance pas plus que ça au niveau politique. Et donc voilà, quand je l'ai arrêté, j'étais juste très très fatiguée, et je me suis dit que bon, voilà, les années ont passé, moi j'ai travaillé sur moi, j'ai pu surmonter ce trauma, j'ai pu comprendre beaucoup beaucoup de mécanismes aussi grâce au féminisme, hein, d'ailleurs le féminisme est rentré dans ma vie comme un bulldozer, et ça m'a fait comprendre beaucoup beaucoup de choses sur ma vie et celle d'ailleurs de la société, tout simplement. Ça a ouvert mes perspectives, ça a ouvert le champ des possibles, et j'ai compris beaucoup beaucoup de choses, et j'ai pu aussi me délester de une forme de grosse tension qui était sur mes épaules depuis le début de ma vie, enfin du moins depuis les viols que j'avais subis. Et je me suis dit, bon, ben Andrea, t'as encore la forme, t'as repris le sport, t'as arrêté la clope, t'as arrêté l'alcool, t'as la pêche, vas-y, remonte sur scène. Et j'ai bien fait parce qu'en effet, moi, je le jouais. En tout cas, je vois que j'ai vraiment dépassé ce trauma. Donc, ça, c'est quand même vraiment une bonne nouvelle. Que quand je joue les moments les plus émotionnels où les larmes sont supposées monter aux yeux de mes personnages, différents personnages, je pense plus à des choses belles qu'à des dramas. En vérité, c'est vraiment de penser à cette victoire, aux gens que j'aime, etc., qui me font monter l'émotion, et ça, c'est super. Et puis surtout, je me rends compte que le public est beaucoup plus à même d'entendre ce texte, de vibrer avec ce texte et cette performance, entre guillemets, cette performance, mais évidemment, c'est vraiment un aspect très, très concret du spectacle, la performance artistique. Et donc, ça, c'est une très grande victoire, en fait, de voir que je suis souvent désespérée, encore une fois, par l'inaction politique, enfin, par la démagogie autour de ce fléau qui découle sur un manque d'action, hein, très, très clair, et un manque de budget très, très clair, et malgré les changements de loi, malgré les spots publicitaires, malgré les ministres accueillis dans les plus grandes émissions de télé ou de radio. Bon, je vois que dans la société civile, ça avance énormément, et qu'aujourd'hui, quand je lève le poing pour dire « allez, force et amour, les amis », les gens lèvent le poing aussi pour dire « bah ouais, moi aussi, je l'ai vécu ». Et aujourd'hui, effectivement, la honte a changé de camp. La parole s'est libérée. Bien sûr, il y a encore plein de personnes qui vont témoigner. Il faut laisser le temps à la prise de parole. Mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette prise de parole a été bien entamée, et qu'on voit qu'on gagne en force. Et ça, c'est merveilleux de voir à quel point les victimes de violences gagnent en force aujourd'hui. C'est beau, ça, ouais, j'adore.
Est-ce qu'il y a des parties du spectacle qui restent particulièrement difficiles à traverser pour vous ? Ou est-ce que vous avez le recul, je ne sais pas si on peut dire, ouais, ça.
Non, aujourd'hui, quand je monte sur scène, j'y vais avec beaucoup d'énergie. Bon, ça, j'ai toujours fait, mais j'ai pris un énorme recul sur mon histoire personnelle. Quand je vais toucher à des états de colère qui sont nécessaires à mes personnages, notamment au personnage d'Odette, évidemment, je pense à cette colère collective, vraiment. Donc, le paradoxe, c'est que, évidemment, cette lutte est compliquée, puisqu'il faut, faut bouger des milliers, des milliers d'années de cursus comme ça autour de la pédocriminalité et de l'inceste. On sait que malheureusement, c'est devenu quelque chose d'ultra, quasiment culturel, qui est encore très, très, très minimisé par la justice par ailleurs. Mais Non, moi j'ai plus mal quand je le joue, même quand il y a les dialogues avec le pédocriminel et l'enfant, ou la minimisation de la mère. Non, moi j'ai plus mal. Je vais sur scène avec la volonté de montrer, de donner, de livrer un beau spectacle qui puisse faire vibrer, faire comprendre des mécanismes et en même temps apporter un immense moment de divertissement aussi, puisqu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'énergie. Et mon but, c'est que les gens sortent de cette salle avec une motivation extrême, que les personnes soient concernées ou pas par les violences en règle générale. Que ça puisse vraiment motiver les personnes qui sortent de cette salle à s'engager contre ces violences systémiques.
Justement, vous parliez du pédocriminel et de votre mère que vous incarnez dans le spectacle. Vous incarnez beaucoup de personnes que vous connaissez, du coup, dans la pièce. Et je me suis demandé comment s'était passé ce travail d'incarnation, surtout pour... C'est déjà difficile quand on incarne des personnes qu'on connaît, enfin, je pense. C'est épineux, mais encore plus quand c'est des... J'imagine, enfin, je pose la question, ce sont des gens avec qui vous avez... Enfin, qui sont source de douleur et de... Mm-hmm. Et pour vous, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé, c'est tout un processus. Au début, tu joues quelque chose qui est quand même assez proche de la personne que tu connais. Puis au fur et à mesure, le spectacle, avec un grand S, prend le contrôle de ton récit. Et finalement, tu t'éloignes un peu de la nature de ces personnes-là, de manière à, ouais, à faire une performance, c'est pas ça, mais à équilibrer le récit entre rire et larmes. Et puis, il y a des moments où je me disais, tiens, là, tu joues... là, ça enchaîne trop au niveau dramatique. Donc, peut-être que là, à ce moment-là, la mère peut être beaucoup plus cynique ou beaucoup plus drôle, même si ce n'était pas forcément le cas dans la vraie vie. Ce qui est important, c'est de se détacher de sa vraie vie pour livrer un spectacle. Bien sûr, tout ça est largement inspiré de ma vie et tout ce qui est dit, je l'ai vécu et entendu même. Mais au fur et à mesure, on se détache. C'est important de se détacher, d'ailleurs, je crois. En tout cas, moi, ça a été ma volonté.
En parlant de l'aspect drôle du spectacle, moi, j'avais vu le film avant. Et c'est peut-être que je ne m'en souviens pas bien, mais j'ai l'impression que le spectacle était plus drôle que le film. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était voulu? Et si oui, pourquoi est-ce que c'est important pour vous que ce soit drôle, un peu, le spectacle aussi?
C'était plus compliqué de donner l'aspect comédie au film parce que déjà, il y avait une vraie petite fille qui incarnait le rôle d'Odette à 9 ans. Donc bon, de base, c'est déjà plus compliqué. Et puis, le spectacle vivant, ça amène une perspective qui est beaucoup plus vaste en termes de projection d'imaginaire et de la caricature aussi. Au cinéma, c'est plus compliqué de jouer avec la caricature. Sur scène, moi, je joue tous les personnages, donc d'un seul coup, être un homme un peu bedonnant, qui va en faire un petit peu des caisses et qui va amener le comique de situation. Au cinéma, c'est bien sûr, il reste le comique de situation, mais le personnage en lui-même se doit d'être assez naturaliste pour toucher le cœur des spectateurs, des spectatrices. Au théâtre, on peut se permettre quand même plus de choses. Et puis comme évidemment, je n'ai pas de décor, je joue juste avec une chaise et je joue avec l'imaginaire du public, forcément, il y a beaucoup plus de liberté. Et je tenais à ce que ça soit vraiment drôle. Et de plus en plus, d'ailleurs, je pense que le spectacle est beaucoup plus drôle aujourd'hui qu'à la création. Parce que si je me suis libérée de gros poids, et donc aujourd'hui, quand je vois... Quand je commence le spectacle, moi je commence le spectacle en plus par une séquence qui est compliquée puisque c'est d'emblée le pédocriminel qui manipule l'enfant. Donc je sais que d'emblée je glace un peu le public et mon but c'est d'aller le rechercher direct après dans le rire. Quoi. Donc moi je m'amuse beaucoup en fait, hein, c'est très technique tout ça hein, en vérité. Mais voilà, le but est d'aller justement rechercher le public, l'obliger entre guillemets à rire. Et d'ailleurs, je vois des gens des fois qui sont super gênés de rire. Et ça, c'est super parce que je me dis que le pari est gagné. Puis c'est vachement important aussi de libérer les émotions. Et donc, le rire est proche des larmes. Hein, donc, si tu ris beaucoup, derrière, tu vas peut-être beaucoup pleurer. Et puis, tu vas sortir de cette salle de théâtre un peu libérée de plein d'émotions qui sont restées bloquées. Quoi. Le rire aide énormément.
Oui, c'est vrai que ça fait un effet très fort. On passe de scène où on est soit très mal à l'aise, soit outré. Puis après, on rigole et puis on s'en veut un peu d'avoir rigolé. Et puis, c'est trop lourd. Et puis d'un coup, donc ça, c'est un effet qui marche effectivement extrêmement bien. Justement, vous parliez de l'évolution du spectacle. Est-ce qu'il a beaucoup évolué en 10 ans ou...
Oui. J'ai commencé le spectacle, il faisait 1h20. Aujourd'hui, je suis 1h55. D'ailleurs, il faut que je... resserre un petit peu pour le Festival d'Avignon. Mais oui, il a beaucoup évolué, encore une fois, parce que je me suis octroyé beaucoup, beaucoup de liberté en fonction de ce que je ressentais avec le public, dans le public, et puis aussi par rapport à l'actualité que j'essaie d'inclure au fur et à mesure. Je m'amuse beaucoup aussi avec ça, hein, avec les codes de l'actualité. Et par ailleurs, je me suis permis de dire, Odette dit un moment... je ne suis pas sûre d'être cohérente dans l'évocation de mes souvenirs. Et puis, on est des millions à avoir vécu ça. Elle est banale, mon histoire. Avant, elle ne disait pas, on est des millions à avoir vécu ça. Puis, j'ai mon petit clin d'œil à Depardieu. J'ai mon petit clin d'œil aux violences policières. J'ai mon petit clin d'œil
où je suis venue.
Oui. Oui. Quand les gens percutent tout de suite, là, c'est une ovation. C'est génial. Et c'est là, on se dit que ça a vachement évolué parce que... En 2020, quand Charlotte Arnould a porté plainte, personne n'avait envie d'entendre ça. Hein. Donc, ouais, c'est bien, ça évolue quand même.
Vous réagissez comment d'ailleurs? Parce que moi, le soir où je suis venue, il y a eu plusieurs effectivement clins d'œil de ce genre où le public a fortement réagi, applaudi, fait des petits wouhou. Comment est-ce que comment vous l'accueillez pendant que vous êtes en train de jouer ces réactions
Ah ben si ça réagit, j'en fais encore plus.
Ça fait du bien. Non,
moi j'improvise pas mal. Si je vois que le public est là et que c'est bon, il a capté, qu'il a envie de se marrer, je rajoute. Et si c'est pas le cas, si c'est plus discret, ben je continue ma route. Donc c'est toujours jouissif hein, quand... Quand il y a de fortes réactions, c'est génial.
On parlait tout à l'heure du film. Naturellement, évidemment, les... personnages ont été incarnés par d'autres comédiens que vous. Ouais. Comment est-ce que vous avez abordé ce travail avec eux? Est-ce que ça a changé votre manière à vous? Est-ce que ça vous a influencé dans votre incarnation à vous des personnages sur scène?
Oh. Ouais, un petit peu. Ouais, il y a des endroits. Il y a des endroits où ça a influé. C'est super intéressant d'ailleurs. De toute façon, le spectacle vivant est vivant et évolutif constamment. Là, en effet, j'aimerais bien comparer la première en 2014 au Petit Chêne Noir et celle que je viens de et la dernière là que je viens de faire au Théâtre de l'Atelier samedi. Honnêtement, on n'est plus du tout sur le même spectacle. Ça n'a plus rien à voir. Et même, de toute façon, même j'ai tenu à remonter le spectacle toute seule là en 2024. Je n'ai regardé aucune captation du passé. Je n'ai pas voulu me remettre en tête la musique que j'avais, la musique entre guillemets, que j'avais avant, le phrasé d'avant. J'ai juste repris mon texte initial et j'ai tout réétudié et j'ai souhaité être en totale introspection et travailler seul, la seule personne qui avait un filage de mon spectacle avant que je reprenne à l'atelier, c'est Déborah Moreau qui avait repris le rôle pendant quelques années et qui va le reprendre d'ailleurs. Je voulais que ça soit tout à fait nouveau, qu'il y ait une énergie tout à fait nouvelle. Et après, par rapport au film, oui, il y a un moment, ça a influé forcément la façon de jouer de Karine, Karine Viard, hein, ou de Pierre de la Donchamp, même de Clovis Cornillac. Il y avait forcément des petites choses. Sur cette reprise en 2024, non, j'ai fait vraiment un gros ménage.
Vous avez terminé votre spectacle quand je suis venue après les applaudissements par un message politique que vous souhaitiez nous partager. Je vous propose de terminer également cette interview, si vous le souhaitez, avec le message politique que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs et auditeurs.
Écoutez, je pense qu'il est fondamental aujourd'hui de s'engager dans la lutte contre les violences, même si on n'est pas concerné soi-même. On est tous responsables en tant que citoyens et citoyennes de la génération qui suit. Et aujourd'hui, on sait. Avant, dans les années 90, voire 2000, etc., même avant MeToo, bon, on savait sans savoir. Aujourd'hui, on a les chiffres. On sait que plus de 18 enfants sont violés chaque heure en France. Donc, ça représente au moins un enfant sur cinq dans ce pays, en Europe et partout ailleurs. Il n'y a pas de frontières concernant la pédocriminalité et l'inceste. On connaît tous ces chiffres. Donc, on ne peut plus se taire, on ne peut plus, on peut plus tolérer l'inaction de l'État. Il y aurait quand même un modèle à suivre qui est celui de l'Espagne, qui s'engage très clairement contre les violences, mais qui met un vrai budget chaque année contre les violences, qui est loin d'être notre cas. L'Espagne va utiliser environ 750 millions d'euros par an à la lutte contre les violences. C'est un pays beaucoup plus petit, on sait. Là où nous, on va utiliser 75 millions d'euros contre les violences, il nous faudrait 3 milliards d'euros par an pour tenter d'éradiquer, en tout cas de minimiser, enfin d'affaiblir ce fléau. Donc, on n'y est pas, malgré de très grandes annonces, hein, malgré des lois qui sont votées, la justice est en déclin total. Donc, bon, je pense que le vote est important. Je pense qu'il faut pousser la société politique à s'engager pour nos enfants, sinon on le payera très cher, on le paye déjà très cher. Puis, de toute façon, on le paye très cher même concrètement, puisque les violences sexuelles et les violences en règle générale coûtent très, très cher à la France. Quand on est victime de violences, on peut être un citoyen en marge, qui peut être inapte à vivre en société, dans une impossibilité de travailler, dans une impossibilité de vivre avec équilibre. Les addictions d'alcool, de drogue, toutes les addictions diverses et variées sont souvent dues à des traumatismes d'enfance. Enfin, si on ne repart pas à la racine de la violence, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc, mettre pression, faire pression sur l'espace politique pour qu'il s'engage concrètement. Plus de justice, de l'accompagnement, de la prévention et pas que de la démagogie.
De Berry. Je remercie encore une fois Andrea Bescon d'avoir accepté cette interview et je vous rappelle les dates où vous pourrez aller voir Les Chatouilles ou La Danse de la Colère. Ce sera cet été au Festival d'Avignon du 29 juin au 21 juillet à 14h au Théâtre du Chêne Noir.
Merci Jennifer, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte. C'est désormais l'heure de rendez-vous au théâtre.
J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir.
Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre.
Rendez-vous au théâtre ?
Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur.
Rendez-vous au théâtre !
On ouvre le bal avec un rendez-vous au théâtre d'Éléonore.
Et oui, je suis allée voir Irish Story, ou devrais-je dire An Irish Story, à la Piccola Scala, qui est donc la petite salle de la Scala. Claire, on avait déjà fait un rendez-vous au théâtre, donc
c'est juste.
Je serai très brève. C'est un seul en scène qui est pensé et interprété par Kelly Ruisseau, qui mène l'enquête sur son grand-père irlandais, disparu sans laisser de traces. C'est mi-français, mi-anglais, avec pléthore de personnages, c'est une aventure familiale, un spectacle sur le besoin de connaître son passé pour mieux avancer. C'est un beau spectacle que je recommande notamment à ceux qui veulent parfaire leur accent anglais. Voilà. Le spectacle An Irish Story, ça joue à la Scala les dimanches, lundis et mercredis à 19h, et ce, jusqu'au 17 juin.
Merci Éléonore, j'enchaîne moi avec un spectacle qui m'a plu. Il y a des féministes pleines de rage et de paillettes au Funambule Théâtre. Le collectif Sœurs Malsaines propose dans cette très jolie salle de Montmartre une réécriture de l'Odyssée d'Ulysse, c'est l'Odyssée d'Hélène tout simplement, où la part belle est faite aux femmes de la mythologie non moins mythiques que leurs homologues masculins. Ça tire dans tous les sens et à boulet rouge sur le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme et j'en passe, dans une mise en scène tout à la fois acidulée et noire qui permet à ses interprètes de tout genre et de tout poil, spéciale dédicace aux super moutons, oui là aussi il y avait des moutons, de vrais beaux moments de théâtre. Ça se joue encore deux fois au Funambule Théâtre, le 8 et le 9 juin, c'est-à-dire ce samedi et ce dimanche, le week-end des élections européennes, mais vous pourrez faire les deux à la fois. Jennifer, tu as un spectacle à nous conseiller ?
Oui, je suis allée la semaine dernière voir au théâtre de l'Épée de Bois Explosif, une réécriture contemporaine par Élise Wilk des Bacchantes d'Euripide. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous fais un petit résumé. Dans un lycée arrive Denis, un garçon très mauvais mais beau et séduisant qui arrive à mettre tout le monde à ses pieds. Il réussit à séduire Agave, ici conseillère d'orientation qui regrette sa jeunesse et qui, pour quelques frissons, délaisse son fils Panté, un gentil jeune homme ambitieux et bon élève qui croule sous la pression de réussir et refuse de se soumettre aux nouvelles lois tyranniques imposées par Denis. J'ai particulièrement apprécié la mise en scène dynamique et pop, l'aspect complètement décalé de faire une comédie musicale et joyeuse alors que se déroule sous nos yeux une mise en place d'un système de harcèlement. Il y avait un humour bienvenu qui rendait l'histoire d'autant plus grinçante. Il y avait du Britney et ça c'est jamais pour me déplaire. La scène était très belle, la pièce bien rythmée, l'histoire prenante, j'ai passé un bon moment. Il n'y a pas de date annoncée mais ça arrive très très vite, donc stay tuned.
Merci Éléonore, merci Jennifer, merci à nos trois invités, merci à Clément notre réalisateur sauveur du soir et à dans deux semaines pour une dernière émission spéciale et sans doute... tout le monde s'en souviendra. Allez au théâtre,
vous allez voir.
Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la science-fiction.
On est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre.
La vie est folle, la vie est géniale.
Dis-moi qui tu es.
Qui? Si je le savais, je ne te le demanderais pas.
Et si tu ne le sais pas, comment puis-je le savoir?
Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles.
On a tous compris une chose ce soir-là, c'est que notre vie, elle est à nous et à nous seuls.
Avec cette certitude que c'est bien trop précieux la vie pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant.
C'est pour moi la partition d'acteur la plus jubilatoire qui m'ait été donnée de jouer.
Je trouve qu'il vient sur scène avec une envie de se surprendre, de nous surprendre.
C'est au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Mmh. Et là, j'étais invitée chez eux.
Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement, à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut.
Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux.
L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent envie.
Alors il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser ensemble.
Tous les superlatifs fonctionnaient, je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel.
C'est facile, lui laisser la place à l'imaginaire.
Et vivre Radio Campus.
Ah, merci.